Davis.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyper atomique exponentiel.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue sur les ondes de CKIA pour cette autre édition de Puissance Maximale, votre émission hebdomadaire sur le monde ludique, donc tout juste passé 17h. On est lundi, le 2 mars 2009. Vincent Langlois au micro, et je suis en compagnie, comme à l'habitude, de Guillaume Forand.
Salut tout le monde!
Hey Guillaume, aujourd'hui on a quand même une bonne émission, quand même assez remplie. De ton côté, on va faire un petit tour de table, comme à l'habitude, juste avant de débuter. Qu'est-ce qui se passe de ton côté?
De mon côté, deux choses. Premièrement, je vais faire une chronique sur le manga, sur l'animé Naruto, que
oui,
plusieurs personnes connaissent.
Dont on entend parler ces temps-ci.
Et plusieurs personnes ne savent pas c'est quoi exactement.
C'est parfait.
Et de plus, je vais vous parler un petit peu du grandeur nature de la crypte, qui va avoir les activités qui commencent à la fin du mois, et avec une petite capsule audio en primeur à puissance maximale.
À puissance maximale, le coin des primeurs au niveau du jeu, c'est certain. De mon côté, bien, j'aurai un entretien avec Robin Couture-Matt, qui est un joueur, en fin de compte, vraiment un passionné de jeu, également créateur de jeux. Et c'est un adolescent, donc un jeune de 17 ans, quelque chose, en fin de compte, des gens qu'on n'a pas eu la chance d'avoir souvent à puissance maximale. Il y a eu quelques semaines, on a eu une élève qui avait participé à un concours de jeu, mais à puissance maximale, c'est rare qu'on ait des adolescents ou presque adultes qui viennent parler de leur passion. Donc aujourd'hui, on a Robin Couture-Matt qui vient parler de sa passion du jeu. Également, bien, je vais faire un petit peu d'actualité en fin d'émission et on aura la chronique rétro de Mathieu Place. Et on va débuter tout de suite avec le côté du GN de la crypte, en fin de compte, amusement de la crypte, parce que vous savez que Puissance Maximale, c'est aussi une émission, un site web et bien, bien d'autres choses.
C'est une
Puissance
fenêtre.
Maximale, c'est une fenêtre pour le monde du jeu, les gens qui sont intéressés à venir en parler, parler de leur événement, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec l'amusement de la crypte. On va passer premièrement à une petite capsule audio.
Oui, une petite capsule audio qui va un petit peu un teaser qu'on appelle pour la prochaine activité qui va commencer le 28 mars. Et donc un petit quelque chose pour mettre l'eau à la bouche pour ceux qui viennent en temps normal et les gens qui seraient peut-être intéressés à venir.
Excellent, et on va venir après ça en reparler dans quelques instants.
L'intemporel, l'immortel et l'omniscient empereur de son ultime grandeur, de son infinie sagesse et de sa bonté sans limite, par l'intermédiaire de son fidèle sujet, Meldor, dit le Borg, fils de l'empereur et dirigeant incontesté de Shokar, capitale des territoires méridionaux, annonce le décret suivant. Dans l'immense dessein de l'Empire, de nouveaux territoires sont désormais prêts à être colonisés. Le premier village côtier permanent, l'Ortin, est maintenant établi. Les territoires environnants sont vastes et les terres pleines de ressources. L'empereur, dans son incommensurable générosité, vous offre l'immense opportunité de faire prospérer ces terres. Le décret donne droit à des tribus de s'installer sur les terres et ainsi de les faire prospérer. Le seigneur Ignace, dirigeant de l'Orteil, vous convoque par la même occasion au festival du printemps. Lieu de festivité pendant cette période de réjouissance, l'Orteil vous offre amusement, festin et maintes autres activités qui sauront ravir tous et chacun. De plus, afin de permettre aux tribus d'accroître plus aisément leur influence au sein de l'Empire, de tout nouveaux arrivages d'esclaves seront disponibles. Tout citoyen de l'Empire intéressé est cordialement convoqué à cette kermesse printanière. Gloire et longue vie à l'Empire!
Production Amusement la Crypte.
Et voilà, donc, petite capsule qui nous donne le goût sûrement d'aller faire un tour au GN de la crypte. Dis-moi, Guillaume, à quel moment ça commence?
C'est sûr, certain qu'à chaque année, ça varie un peu les dates. Généralement, dans le cas de la crypte, on a une activité qui commence à la fin du mois de mars. Tout dépendant des années, il y a des noms différents. Cette année, c'est une kermesse, donc une fête, qui est proposée comme activité aux gens. Ensuite, il y a des activités à tous les mois qui peuvent varier de site. C'est normalement une activité à chaque mois jusqu'au mois d'octobre où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on sera jusqu'à la dernière activité.
D'accord. Donc quand même assez bien rempli pour les gens qui veulent participer à ça. À quel endroit ça se situe là? En fin de compte, j'imagine que vous avez différents terrains.
On a différents terrains. De façon générale, ça se passe à Saint-Henri-de-Lévis. Il y a une dame qui étant très généreuse nous permet bien d'utiliser son terrain, une érablière, à des fins de pouvoir justement faire le grand en nature. Donc l'érablière elle-même sert d'auberge, sert aussi pour quand il y a vraiment des températures extrêmes pour les gens de dormir à l'intérieur. Généralement, on recommande aux gens d'emmener des tentes pour pouvoir se reposer, dormir. Mais on a quand même un espace intérieur un peu style dortoir. Les gens amènent leur matelas, couchent sur le sol, ils peuvent dormir à l'intérieur. Cette année, on a réussi à avoir un super beau terrain pour la première activité, qui est le terrain de la pointe d'Argentenay à l'île d'Orléans, qui est tant qu'à moi un des plus beaux terrains au Québec de grandeur nature, qui n'est pas évident à voir. Qu'on a réussi à avoir. Donc, on est bordé de trois côtés du fleuve et l'autre extrémité, c'est le début du terrain. Donc.
Quand tu parles de la première activité, tu parles de la première activité du mois de mars, la kermesse?
Non, la première activité du mois de mars, la kermesse, ça se passe à une salle en arrière de Place Laurier.
D'accord. Fond.
Mais le premier grandeur nature, donc la première activité à l'extérieur, vraiment le premier 48 heures, lui, se passe à l'île d'Orléans.
D'accord. Dans quelques semaines après la kermesse, j'imagine?
C'est quelques semaines. J'ai pas la date exacte. C'est, si je me souviens bien, c'est la dernière semaine, fin de semaine complète du mois de mars, du mois d'avril.
D'accord.
Donc, il reste encore un peu de neige, mais t'as assez bien tapé que, généralement, quand il y a une bonne quantité de neige, c'est assez bien tapé qu'on cale pas trop, on peut quand même caler. Ou, généralement, à ce temps-là de l'année, il reste plutôt, on pourrait dire, des plaques de neige. Donc, la majorité de la neige est disparue, il reste un petit peu de bande de neige, de plaques de glace sur le bord du fleuve à ce moment-là.
Dis-moi donc, Guillaume, à qui s'adressent les différentes activités d'amusement à la crypte? Parce que, est-ce que ça s'adresse à des gens qui ont déjà la connaissance du jeu ou des gens qui voudraient tout simplement s'initier? Est-ce que c'est des gens qui peuvent participer à vos activités?
Ça s'adresse à tout le monde. L'âge requise minimum est de 14 ans pour être non accompagné. 12 et 13 ans, c'est possible de venir quand même. Par contre, il faut être accompagné d'un adulte responsable à ce moment-là. Et ça part, dans le fond, de 14 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, tant qu'on est en forme et qu'on peut bouger un peu, c'est ouvert à tout le monde. On a des gens qui sont dans vingtaine, on a des adolescents de 14, 15, 16, 17 ans. On a des gens dans trentaine, on a même ma belle-mère qui participe aux activités qui est dans cinquantaine. Donc, ça varie beaucoup l'âge. On a des gens de tous les âges, de tous milieux. Des gens qui viennent de Rimouski, qui viennent du secteur de Montréal, de Granby, des gens d'un petit peu partout qui viennent.
Puis est-ce qu'il y a possibilité de commencer, disons, de façon un petit peu plus délicate dans ce monde-là du GN, au lieu de dire, bon, je commence, j'achète des armures ou j'achète des armes et je commence directement. Est-ce qu'on peut commencer comme dans tout bon GN, par exemple, faire les méchants ou se faire taper dessus un peu?
Généralement, les nouvelles personnes pour qu'est-ce qui est des monstres directement, c'est plus l'équipe d'animation, parce que le but, c'est d'animer les gens, donc de plus être au courant de la façon que ça fonctionne pour bien balancer le jeu. Par contre, on offre des groupes en partant aux gens qui s'initient, donc qui peuvent se joindre pour avoir des gens pour les guider un peu à ce moment-là, pour pas qu'ils soient trop perdus, pour leur donner leur quête à ce moment-là, interagir avec eux, leur donner des conseils en gardant nature. Moi, personnellement, ma femme que j'ai rencontrée en activité, premier grandeur nature, c'est un petit peu comme un petit chevreuil là, qu'on croise sur le bord de la route. Là. Elle était gênée, elle était pas trop sûre. Elle voulait s'impliquer, mais c'était difficile pour elle de s'intégrer. Donc moi, ça m'a été présenté par un ami. Je l'ai pris un peu sous mon aile et je suis parti avec. J'ai montré un peu comment ça fonctionnait. J'ai donné un cours 101 de survie de GN. Donc ça, il y a tout plein de gens qui le font naturellement. Les animateurs sont là pour ça aussi à ce moment-là.
Donc de toute façon, c'est certain qu'il y a une place pour s'initier, puis peut-être que la crypte, c'est un bel endroit, justement, pour commencer pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est le GN. Et il y a sûrement un site Internet sur lequel on peut aller pour avoir toutes les informations, j'imagine.
Il y a lacrypte.ca, qui est le site web, et on a aussi un forum de disponible pour quand que la saison est commencée, avec une partie en jeu pour des missives, en jeu des messages généraux, avec une partie hors jeu aussi pour les membres qui veulent discuter entre eux, qui veulent parler du nouveau jeu qui est sorti, qui veulent avoir des conseils, des trucs, ou acheter de la fourrure pour pas cher, du cuir, donc tout plein de choses pratiques pour les joueurs de la crypte.
Excellent. Donc, on va voir ça sur lacrypte.ca. Également, on aura l'information sur notre site Internet, le www.puissancemaximale.com. Et on va poursuivre en musique.
Oui, et comme à l'habitude, on va commencer avec la première pièce qui va venir de Musax. Donc, ça va être lui-même qui va introduire sa pièce comme à l'habitude, car il fait très bien ça. Il l'introduit avec passion, c'est
oui.
Et on va partir en musique.
Et en même temps, on va saluer nos cousins français qui nous écoutent par le biais d'Internet.
Evil est un des tout premiers jeux dits de survival horror. Le joueur incarne un des membres de l'équipe Bravo des Stars, une unité d'élite. Plongé dans un univers peuplé de morts-vivants, le joueur devra élucider bien des mystères afin de sortir vivant d'un manoir sordide et oppressant.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Notre ami Frodon qui vient toujours faire un tour en studio pour nous parler. Et bien, cette semaine, chers auditeurs et auditrices, nous avons la chance de recevoir un étudiant du secondaire. C'est pas à toutes les semaines qu'on a la chance d'avoir des adolescents qui viennent nous voir ici à Puissance Maximale. Et on a la chance de recevoir Robin Couture-Matt, qui est un passionné de jeux et également un créateur de jeux à 16 heures. Alors bonjour Robin, bienvenue à Puissance Maximale.
Bonjour à vous.
Tout juste, comme je viens de le dire, tu es un passionné de jeux. Je crois que tu touches à pas mal tout ce qui touche au monde ludique, que ce soit jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de figurines. Dis-moi donc, cette passion-là du jeu, elle est venue comment chez toi?
C'est surtout venu en lisant des livres. beaucoup de livres d'imaginaire, ou jouant à des jeux vidéo aussi, et surtout en écoutant la télévision, les films. Donc, ça développe l'imaginaire, donc on veut poursuivre et ça m'a amené au jeu.
T'es-tu plus du type un peu fantastique, du type futuriste ou...
Un peu de tout. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui s'appelle science-fiction, donc l'avenir sombre de l'humanité, mais j'aime aussi tout ce qui s'appelle rétro comme médiéval ou même canon, en fond. Tout.
D'accord. Et quels sont les types de jeux que tu préfères le plus?
Je préfère vraiment les jeux de figurines, donc style Warhammer ou Seigneur des Anneaux. J'aime aussi beaucoup les jeux de plateau et les GN. J'aime énormément les jeux vidéo, mais vraiment les jeux de figurines sont mes préférés.
Puis est-ce que tu penses que c'est un peu tous les jeunes, les adolescents, qui pensent un peu comme toi au niveau de ça? Est-ce que c'est les jeux de figurines qui priment chez les adolescents ou on touche à peu près à tout également?
D'abord, chez les adolescents, souvent c'est un univers assez comme péjoratif, donc c'est comme un peu rétro, donc les gens n'aiment pas ça.
Le fait qu'on joue à des jeux, tu veux
oui,
dire?
Oui, les jeux, je parle pas des jeux vidéo, je parle vraiment des jeux plateaux, oui. Et figurines, donc c'est comme un peu arriéré, comme exclu de la société, donc c'est pas très bien.
C'est la vision que les jeunes ont
oui, beaucoup.
Du jeu.
Parce qu'ils ont jamais joué souvent. Souvent, lorsqu'on les amène à jouer, alors là, ils changent de mentalité, ils trouvent ça plus intéressant. Donc c'est vraiment ça, mais comme adolescent, c'est vraiment comme ça qu'on pense.
C'est un peu comme la mentalité des jeux vidéo. Il y a plusieurs années, les gens qui jouaient à des jeux vidéo étaient exclus un peu. Maintenant, c'est rendu plus commun. C'est accepté par à peu près tout le monde que des gens jouent à des jeux vidéo. Le restant des jeux de rôle, des jeux de figurines, c'est pas encore pleinement accepté. Ça vient tranquillement, c'est de plus en plus accepté. Mais c'est pas encore rendu à la même étape que justement les jeux vidéo.
Oui, puis c'est ça. Puis le jeu vidéo, j'imagine, justement en 2009, c'est tellement joué par tous les jeunes que les jeux de plateau ont été laissés de côté. Puis souvent, les jeux de plateau, on revient toujours à la même chose. Hein. On a toujours l'impression que si on n'a pas découvert le monde du jeu de plateau, la seule chose qui s'offre à nous, c'est le Monopoly et le Clou. Il semble que c'est souvent ça l'impression qu'on a. Mais il y a tellement une variété de jeux incroyables. On a juste à aller voir dans les magasins de jeux spécialisés. Et là, c'est là qu'on découvre plein de choses. Robin, dis-moi, revenons aux jeux de figurines, notre passion. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse vraiment aimer ce type de jeu-là, parce que c'est quand même spécial comme jeu. Peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est?
En fait, c'est un jeu où est-ce qu'il y a des figurines miniatures, donc des modèles réduits de personnages, par exemple, de jeux vidéo, ou des orques, des gobelins, des elfes, en plastique ou en métal. Souvent, ça tend vraiment plus à devenir en plastique. Où est-ce qu'on pourrait créer des batailles à échelle réduite, donc avec des scénarios, de grands champs de bataille avec beaucoup de figurines, souvent au-dessus de 100 figurines. Et qu'on peut donc vraiment reproduire ces scènes-là. Donc on peut même recréer des scènes historiques comme les batailles de Rome ou Alexandre le Grand. Mais souvent on se limite vraiment à un monde imaginaire, à un monde comme Warhammer, où on peut vraiment développer une stratégie autre que le jeu vidéo.
Donc sa propre stratégie, il n'y a pas une intelligence artificielle qui vient nous affronter finalement, c'est nous qui développons cette stratégie-là. En parlant de stratégie, justement, j'imagine que quand on parle de jeu de figurines, il faut sortir les règles, il faut sortir les dés, puis il y a différentes règles à suivre justement au niveau peut-être d'un livre ou un guide à suivre.
Oui, il y a beaucoup de règles. En fait, moi je me fais beaucoup avoir en mode parce que c'est mon jeu préféré.
Oui.
Il y a un livre assez volumineux contenant des règles selon les tirs, les mouvements et tout. Et cela nous indique comment jouer, comment avoir une certaine équilibre. Parce que si on avait des règles inventées à style maison, souvent on aurait un déséquilibre parce que les joueurs tendent à vouloir avoir l'avantage. Mais avec ces règles-là, souvent avec les dés aussi, on peut vraiment équilibrer, avoir un jeu où est-ce que la stratégie prime, même s'il y a de la chance à cause des dés, et où on peut vraiment avoir un contact assez comme commandeur à commandeur avec les joueurs.
D'accord. Peux-tu me donner un exemple de stratégie pour les gens qui savent vraiment pas où est-ce qu'on s'en va, là? Ça veut dire qu'on étale toutes les figurines l'une en arrière des autres ou l'une à côté des autres. On est sur un genre de matelas qui peut représenter soit une montagne, une forêt, qui peut représenter un lieu qu'on connaît historique. Et à partir de là, les gens jouent avec les dés et on attaque en face et on reçoit de l'autre côté, c'est ça?
En fait, plusieurs mouvements peuvent avoir lieu. Donc, on peut avoir, par exemple, des mouvements de on va venir vers les flancs ou vers le centre. Et vraiment, tout commence dans le placement au départ des figurines. Puisque on sait que, par exemple, que si on a une unité de lance, la cavalerie va être très faible contre elle. Donc, tout se place en partant. De là, on peut effectuer des mouvements stratégiques pour aller chercher des points clés stratégiques, comme exemple des hauts de montagne où on peut tirer plus loin ou se défendre plus facilement.
D'accord.
Donc, tout est une stratégie vraiment du mouvement, du déplacement, de coordonner les unités ensemble. Donc, c'est vraiment un jeu, un peu comme les échecs, si on veut.
Et j'imagine que, dépendamment d'où on est placé, parfois on peut faire le tir, parfois on peut pas le faire. C'est des règles encore là qui sont bien précises, dépendant de l'endroit où tu es placé sur la carte. Peux-tu me dire, j'imagine que collectionner des figurines comme ça, ça doit être quand même quelque chose qui est assez dispendieux?
Oui, c'est assez dispendieux, puisque le jeu, en fait, les prix ne se basent pas sur la quantité de matière utilisée, donc par exemple de plastique ou de métal, mais vraiment sur la qualité stratégique de la figurine. Donc, par exemple, en général, va coûter deux fois plus cher qu'une unité de base normale, qui est déjà un prix assez élevé. Et donc, monter une armée peut coûter autour de 1 000 $. Donc, une armée...
1 000 $ pour une armée?
Par contre, il y a toujours possibilité de faire des armées pour moins cher aussi. C'est sûr, si on veut optimiser ou des fois même acheter des figurines pré-peintes qui sont disponibles des fois, ça va coûter plus cher. Par contre, des fois, avec certains spéciaux pour une armée de base, on peut s'en tirer pour quand même beaucoup moins cher que ça. Mais c'est sûr, certains, c'est comme n'importe quoi. C'est comme une voiture. On peut acheter la voiture de standard au concessionnaire, puis après ça, on peut rajouter 10 000 de modifications dessus. Là. C'est un petit peu le même principe.
Oui, c'est un bon exemple. Dis-moi, Robin, j'imagine que vous faites des soirées entre amis ou des fins de semaine de jeu sans arrêt. Est-ce que au niveau scolaire, est-ce qu'il y a des facilités pour toi de pouvoir jouer soit avec des amis à l'école ou des choses comme ça?
Et à mon école, c'est comme un peu moi qui ai parti le club. Donc, j'ai initié des gens qui avaient l'air intéressés à jouer aux jeux de plateau. On s'est créé un club au début pour essayer des nouveaux jeux, tester des nouvelles règles. Par la suite, ça s'est muté en club de création du jeu. Donc, à mon école, c'est local, c'est le fun. On peut faire ça un peu partout. Tant que les gens sont intéressés.
Dans les différentes salles. Tu parles justement, là, tu parles de création. D'où t'es venue l'idée de mettre à profit ton expérience de joueur et ton imagination pour créer tes propres jeux?
C'est un peu, plus gênant à dire, c'est un peu par orgueil personnel. Donc, en lisant des livres, en voyant des films, en jouant des jeux, je me suis rendu compte que comment ces gens ont pu penser à ça. Je me suis dit que je pouvais faire mieux, je pouvais faire comme eux, je pouvais être comme eux. Donc, j'ai commencé à créer des jeux, à vouloir modifier les règles, dans le fond, pour améliorer les jeux. Donc, c'est vraiment à cause de l'orgueil personnel.
L'orgueil, la fierté de dire que je vais être capable de faire quelque chose. Mais c'est bien quand même d'avoir des idées de vouloir améliorer les choses, parce qu'on sait que les choses ne sont pas parfaites quand elles sortent. Dis-moi, jusqu'à maintenant, est-ce que tu as terminé la création d'un jeu?
Oui, j'ai terminé la création d'un jeu que j'étais supposé présenter l'année passée aux Journées ludiques de Québec.
Oui.
Mais malheureusement, j'ai pas pu y assister à cause des raisons personnelles. Donc... Oui. Je peux pas, mais j'ai un jeu à l'actif présentement que je pourrais présenter.
Que tu pourrais présenter aux prochaines journées ludiques, par exemple.
Bien sûr.
Excellent. Donc, je te remercie, Robin Couturmat, d'être passé ici à Puissance Maximale. On aura peut-être la chance de se rejaser une fois que peut-être le jeu sera sorti. Peut-être qu'on pourra t'accueillir de nouveau dans les studios.
Merci à vous.
D'accord. Et Guillaume, on va passer en musique.
Oui, on va y aller avec une chanson, je dirais pas classique, mais une chanson méconnue que plusieurs gens, par contre, quand ils te découvrent, aiment bien. Ça vient du groupe qui s'appelle Nightwish, et c'est la chanson Wishmaster.
Excellent, Nightwish.
Jaune-Jaune aussi écoute Puissance Maximale.
Jaune, jaune, à toutes les fois je l'entends vraiment, j'ai les oreilles qui m'éclatent.
Ça me semble que c'est un crime de passer ça à la radio, là, le son de même.
Mais que voulez-vous, Jaune, jaune, c'est quand même notre ami et on l'aime beaucoup. Et on est en compagnie de Mathieu Place pour oui. La chronique.
Ah. Oh.
Ça fait mal le premier coup.
On le sent, hein.
Après, c'est quand on sort pour de vrai dans le salon, dans le sous-sol, puis on se cogne la tête.
Pour vrai.
Fait qu'on était jeunes, là.
Place à la chronique de Mathieu Place.
Eh oui, la chronique de Mathieu Place. Et Guillaume, tu fais penser justement quand on jouait à Donkey Kong ou ces choses-là, quand on était jeune puis qu'on sautait vraiment sur le divan. C'était assez incroyable. Faudrait qu'on ait des films de ça, juste pour revoir ça, parce que je pense que tout le monde l'a fait. C'était instinctif, je sais pas trop d'où ça venait, mais on sautait en même temps que Mario ou que Donkey Kong.
Avec la manette des mains, puis ouais. Si on sautait, il sautait mieux, c'est sûr.
Ça. Ma théorie, c'est que les gens de Nintendo ont vu comment on jouait à ce moment-là, puis c'est ça qui leur a donné l'idée de la Wii. Ils ont dit, bon, ben les gens, ils jouent avec leur corps, fait qu'on va faire une Wii, parce qu'ils vont jouer avec leur corps.
Tu es en train de me dire qu'il y a déjà 20-25 ans, là, ça fait déjà 20-25 ans qu'ils travaillent sur le concept de la Wii.
C'est en développement pendant 25
pourrait,
ans.
Ça se pourrait bien.
Oui, si on regarde la Wii et les vieux accessoires du Nintendo dans le temps, le Power Glove, il y avait le tapis. C'est toutes des choses qui ont repris d'une certaine façon avec oui. La Wii.
C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'était une tendance, je pense, qu'ils voulaient opérer avec la console dès le début. Ah, justement, c'est mon sujet d'aujourd'hui.
Le sujet de Nintendo, qui ont toujours été innovateurs dans un sens.
Ils ont toujours été innovateurs. Même au tout début, je vous rapporte, au début des années 80, il y avait l'Atari, le Coleco. C'était vraiment des consoles primitives. Et puis le Nintendo est arrivé à ce moment-là. En 1983, il y a eu un grand crash dans l'industrie du jeu vidéo. J'en ai déjà parlé ici, mais je vais vous faire un petit rappel. C'est qu'à l'époque, tous les concepteurs de jeux vidéo pouvaient en faire. Là. C'est-à-dire que vous aviez des jeux vidéo pour à peu près n'importe quoi. Vous aviez un jeu célèbre de Johnson & Johnson où vous pouviez vous brosser les dents. Et puis, il y avait un autre jeu, c'était le cube Rubik sur Atari. Alors, au lieu de vous acheter un cube Rubik à 4$, ben, vous achetiez un Atari à 100$ et puis une console de une cartouche de 60$. Et puis, ça vous pouviez jouer au cube Rubik, mais juste chez vous, juste devant la télévision, au lieu d'avoir le cube Rubik qui était portable. Alors,
ça a créé un crash du jeu à un moment donné. C'est certain qu'il y en a trop, puis je me souviens, je donne toujours l'exemple, mais le bon vieux E.T. l'extraterrestre.
C'est ça.
Le bonhomme qui se promenait partout tombait dans le trou, on essayait de le faire sortir de là.
Un jour, je vais réussir à jouer à ce jeu-là, je vous le promets.
Ouais, en tout cas, on pourra faire un test.
Au travers. Vous pouvez trouver sur YouTube des gens qui essaient de passer E.T. au travers, là, puis au début, bon, ils sont, ils ont envie d'essayer le jeu, de passer au travers, mais tu sens que pendant le jeu, là, il y a la douleur qui s'en vient, puis ça devient assez atroce. Mais toujours est-il que tous ces jeux, là, on fait en sorte que la réputation des jeux vidéo était vraiment à son plus bas. Les gens ont arrêté d'acheter des jeux vidéo et puis il y a eu un grand crash en 1983. Et puis à l'époque, les gens qui faisaient des qui vendaient des jeux, qui vendaient des jouets, eh bien, ils croyaient qu'ils allaient plus jamais avoir de jeux vidéo. Et puis, Nintendo est arrivé en 1983 et puis, ils ont sorti une nouvelle console de jeux. Et puis, bon, ils l'ont sorti d'abord au Japon, comme d'habitude. Là, oui. Il y a beaucoup de consoles qui vont faire leurs premières armes au Japon. Ça s'appelait le Famicom et c'était en 1983. La console est sortie aux États-Unis, en Amérique du Nord, ici au Québec, en 1985. Et puis, ça s'appelait le Nintendo Advanced, c'est-à-dire Nintendo Entertainment System.
Le NES.
C'est ça, le NES, le célèbre NES. Au départ, pour pouvoir percer le marché nord-américain, on se souvient qu'à l'époque, il y avait le Commodore 64, il y avait le VIC-20 aussi qui était sur le marché. Eh bien, Nintendo avait décidé d'ajouter un joystick, d'ajouter un keyboard aussi, et puis d'ajouter aussi des cassettes. À l'époque, on pouvait avoir des jeux sur des cassettes. Alors, ils ont décidé de percer le marché nord-américain en ajoutant des périphériques comme ça. Finalement, ça n'a pas passé. C'est le robot Rob qui a été utilisé avec le fameux fusil laser qui ont été utilisés comme périphérique pour la première console.
Fusil laser, en fin de compte, qu'on se demande encore comment il fonctionnait.
Oui,
maintenant qu'on a la Wiimote avec le capteur qu'on met sur l'écran ou à côté de notre écran, on n'avait pas de capteur ordinateur dans ce temps-là. Alors, comment fonctionnait-il?
Moi non plus, je suis allé voir sur Internet et puis il y a beaucoup de sites qui se rapportent à ça parce qu'on n'est pas les seuls à se poser la question. Comment est-ce que la télévision pouvait capter un laser qui sortait du Nintendo? En tout cas, mais il y a des sites qui expliquent ça. J'ai pas tout à fait compris parce qu'il faut comprendre comment fonctionne une télévision. Mais bon, vous pouvez regarder sur Internet pour pouvoir avoir les informations.
On aura peut-être la réponse.
C'est ça. Quand le Nintendo est sorti en Amérique du Nord, il y avait 10 jeux, dont Duck Hunt, Except Bite, Golf, Hogan's Alley, Baseball, Tennis. Ce qui est beau avec ces jeux-là, c'est, par exemple, si t'avais un jeu de tennis, il n'y en avait pas d'autres qui étaient sortis, là. Fait que ça, tu pouvais l'appeler Tennis, tout simplement. Et puis, il n'y avait pas encore de commanditaire, là. Vous n'aviez pas de Tiger Woods qui allait commanditer le jeu de golf,
ouais,
etc.
Ouais, ouais.
Alors, Golf, ça s'appelait Golf, Baseball, ça s'appelait Baseball, et Tennis, Tennis. Quand c'est sorti au Japon, 2 ans avant, il y avait seulement 3 jeux qui étaient disponibles. C'était Donkey Kong, et puis vous aviez Popeye et Donkey Kong Junior. C'était les seuls jeux qui étaient disponibles. La première étape au Japon, c'est que le Nintendo est sorti, puis ça a crashé. Ça a vraiment été un problème au départ, parce que la puce qu'ils utilisaient était vraiment défectueuse. Mais une fois qu'ils ont remplacé ça, ils ont dû tout ramener leur stock à l'usine, remplacer les puces, et puis par la suite, ça a été un gros succès, une fois que le jeu crashait pas, là, si vous voulez. Alors, on dirait que Nintendo a réussi à trouver vraiment un filon. On dirait qu'ils ont réussi à remplir un manque qu'il y avait dans l'industrie du jouet, l'industrie du jeu. Et puis, ils ont réussi à faire la première console qui était vraiment intéressante, qui avait assez de technologie pour faire des jeux un peu plus compliqués. Je vous rappelle que c'est sur cette console-là que vous avez eu des franchises qui sont devenues très, très, très célèbres. C'est là qu'ils ont commencé. Alors, j'en nomme juste quelques-uns. Metroid a commencé là, Zelda, Super Mario, Mega Man, Castlevania, Dragon's Quest et Final Fantasy ont tous eu leur premier jeu sur le NES. Alors, c'est quand même très important. Et moi, j'ai l'impression que dans le futur, ça va vraiment être la mère de toutes les consoles. Ça va être le Nintendo. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je fais ma première chronique de ma nouvelle série sur le Nintendo. Juste pour rappeler le design du Nintendo, vous aviez deux choses qui étaient bien importantes pour Nintendo, justement pour pouvoir passer au travers du crash, pour pas faire les erreurs qui avaient été faites par Atari à l'époque. La première chose, c'était d'avoir une cassette qui entrait dans la machine sans résistance aucune, un peu comme un magnétoscope. Quand on entre une cassette dans un magnétoscope, on fait juste une petite poussée, puis après ça, la console, le magnétoscope s'occupe du reste. Pour la Nintendo, c'est la même chose qu'ils voulaient faire pour éviter l'usure. Sauf que le problème, c'est que ça finissait par s'user de toute façon. Et bon, vous connaissez le fameux truc là, d'aller souffler dans la console pour pouvoir faire marcher les jeux.
Bon, même de l'alcool, on pouvait mettre de l'alcool à friction.
De l'alcool à friction.
C'était un des trucs qui faisait le mieux fonctionner les cartouches.
Des fois, mettre un petit quelque chose pour mettre un petit peu plus de pression sur ta cartouche quand elle était rentrée pour que les contacts se touchent.
Oui.
Ça prenait ça, là. Tu mettais un petit morceau de carton ou quelque chose juste pour aller faire le contact parce qu'il commençait à être usé avec le temps.
Ah, tous les trucs étaient bons. Je pense que tout le monde avait son truc individuel pour faire fonctionner ces différents jeux sur la NES.
Ben, c'est ça. On apprenait ça d'un cousin qui avait déjà testé.
Et oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet pour aller chercher les informations.
C'est ça, exactement. Alors, ça, c'est vraiment un nouveau design qui a été inventé par Nintendo, ce genre de console-là. Par la suite, une fois qu'ils ont fait la deuxième génération, parce que ça, les gens ne le savent pas, mais il y a eu un NES 2. En fait, c'était au début des années 90 pour prolonger une dernière fois la vie du Nintendo Entertainment System. Ils ont décidé de faire le NES 2 et puis cette console-là, eh bien, c'était une console classique, c'est-à-dire que vous utilisez vos cartouches que vous placez sur le dessus, comme le vieux Atari, comme le PlayStation, comme le Genesis que vous avez eu, PlayStation c'est décédé, mais comme le Genesis au début des années 90. Alors justement, c'est le Genesis et juste après le Super Nintendo qui ont mis fin à la vie du Nintendo. Mais par la suite, vous avez eu beaucoup de consoles pirates qui ont été inventées pour jouer avec les cartouches de Nintendo. Il y a beaucoup de consoles qui ont été inventées et puis ça a continué pendant jusqu'à la fin des années 1990. Vous aviez des nouvelles consoles qui étaient fabriquées. Parce qu'évidemment, Nintendo a arrêté de fabriquer son Nintendo une fois que le Super Nintendo est arrivé parce qu'il voulait se concentrer sur la nouvelle génération. Alors, c'est une des caractéristiques du Nintendo. Et dernière caractéristique importante, c'est que vous avez Nintendo, une des erreurs qu'ils n'ont pas voulu répéter avec Atari, c'est que avec tous les jeux qui étaient inventés par des gens aux alentours, c'était difficile de calculer la qualité des jeux. Et puis, ils voulaient pas qu'il y ait un crash comme on l'expliquait tout à l'heure. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, Nintendo a décidé de faire le fameux sigle, le sceau que vous mettez sur les cartouches pour confirmer que c'était bel et bien une cartouche de qualité. Et puis, ça, c'est une chose qu'on sait pas, mais c'était Nintendo qui produisait toutes les cartouches. Alors, ils pouvaient se permettre de faire ce test de qualité-là. Il y avait même une chip à l'intérieur de la cassette qui était détectée par la console, et puis la console pouvait faire jouer ce jeu-là une fois que la chip était détectée. Alors, c'est pour ça que vous aviez des fois des cartouches qui étaient un peu bizarres, bleu pâle, ou des fois dorées, brunes, qui avaient des formes étranges. Ça, c'était des gens qui avaient pas le sceau de Nintendo, mais qui avaient décidé de faire des cartouches quand même. Alors, c'est pour ça que ça, des fois, ça fonctionnait un petit peu moins bien, parce que c'était pirate.
Oui.
C'était un petit peu en dehors des normes.
Il y avait les fameuses cartouches là, de 99 ou de 101 jeux, ou 200 jeux, ou 300 jeux, là, qui étaient... Parfois, ça fonctionnait, parfois, ça fonctionnait pas, mais
ça.
On a eu vraiment du fun avec ça.
Des fois, c'était en deux morceaux aussi, hein, ces cartouches-là.
Oui.
Tu te souviens, là, il fallait avoir un adapteur pour pouvoir le faire fonctionner.
Oui, tout à fait.
Alors, voilà pour le petit flashback années 80 de Nintendo.
Que de bons souvenirs. Merci
oui.
beaucoup, Mathieu Place, d'être passé aujourd'hui. Oh, et qu'entends-je? La musique du concours. Eh oui, c'est l'heure du concours. Vous pouvez gagner un jeu. Mais pour gagner le jeu, aujourd'hui, vous devrez répondre à la question suivante. Vous devez me nommer un jeu de figurines qui a été mentionné dans la chronique ou dans l'entrevue avec Robin Couturmat. J'aurais besoin du nom d'un jeu de figurines qui a été mentionné dans la chronique avec Robin Couturmat. Et vous aurez la chance aujourd'hui de gagner le jeu La Cosa Nostra, un jeu où la mafia impose le respect. C'est un jeu du Québec, c'est une création québécoise. Et pour gagner ce jeu, où on doit vraiment contrôler tout ce qui se passe autour de nous, bien, vous n'avez qu'à faire le 88-529-9026, 88-529-9026, et vous répondez à la question. Nommez-moi un jeu de figurines qui a été mentionné lors de l'entrevue avec Robin Couturmat. Et Guillaume, on va passer en entrevue? En musique.
En musique, avec un classique d'un film un petit peu plus vieux, un film de Batman, Batman Forever, avec la chanson thème qui était faite par Seal, qui était Kiss from a Rose.
I love so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen.
Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale.
C'était notre ami Friedemann Friese qu'on a rencontré il y a quelques mois de ça à Montréal. Et on a un heureux gagnant. On salue François qui a remporté le jeu La Cosa Nostra. On va passer à la chronique actualité. Ah, mais d'où vient ce thème? Ah, ah. La chronique actualité avec Dart Bicente. Alors, comme je vous ai dit la semaine dernière, merci Guillaume pour cette belle introduction. Vraiment, je pense que ça va rester à la vie et à la mort, cette allusion à Darth Vader. Et si vous m'avez jamais vu, bien, ça a l'air que mes cheveux font comme le casque de Darth Vader. Alors,
C'est vrai.
Merci.
Et tout aussi sexy.
C'est très sexy. Alors, la semaine passée, je vous ai cassé les oreilles avec la fameuse semaine Killzone. Vous savez, c'était le jeu Killzone qui sortait vendredi. Et c'était placardé partout. Killzone s'en vient, Killzone 2 finalement. Et là, on se demandait, bon, pourquoi, d'où vient cet engouement sur le jeu Killzone, alors que c'est un jeu que le premier n'a pas vraiment levé. Là. C'était quelque chose qui avait, c'est un jeu qui n'avait pas été coté très fort. Eh bien, imaginez-vous que juste en fin de semaine, en faisant une petite revue de presse, en regardant ça, les gens sont déjà divisés en deux clans. Les anti-Killzone 2 et les pro-Killzone 2. Donc, les anti disent que ça ne fonctionne pas, le jeu ne s'est pas vendu, c'est quasiment pire que l'original. Et ceux qui sont pour, ben, disent, ben non, c'est impossible, c'est un jeu qui a été fait en Europe. Ils disent que, déjà là, rien qu'en Europe, il y avait 1 million d'unités qui étaient en précommande. Et d'après moi, là, il y avait une autre façon, il n'y avait pas d'autre façon que de retourner dans l'actualité cette semaine. C'est fait, Killzone est encore là. Et moi, je l'ai essayé rapidement. J'ai pas essayé le jeu, j'ai essayé le démo que j'ai pu télécharger la journée où il est sorti. J'avoue que je l'ai pas essayé très très longtemps. J'ai commencé à le jouer, mais présentement, ça m'a laissé sur mon appétit. Peut-être tout simplement parce que j'ai pas joué assez, puis j'ai pas parce que il y a certains contrôles qui sont pas les mêmes que les, par exemple, les first ou les third person shooters.
Une période d'adaptation.
Ouais, c'est ça. C'est la période d'adaptation au niveau de comment utiliser la mire, puis ces choses-là. Bon, peut-être c'est juste ça qui m'a plus ou moins intéressé, mais je vais prendre le temps de bien de le jouer et je vais pouvoir vous en parler dans quelques semaines de ce jeu-là. Parlant de vente de jeux ou de jeux qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Cette semaine, le chef des opérations chez EA, Electronic Arts, a affirmé que deux de ses sorties pour l'année 2008, Dead Space, qui est un jeu de tir à la troisième personne, et Mirror's Edge, qui est un jeu de parkour ou de saut sur les buildings, on saute d'un building à l'autre et ces choses-là, n'ont pas vendu du tout. C'était des jeux vraiment qu'ils attendaient à être des hits, comme on dit en anglais, vraiment des succès. Et ça là, ce sont des jeux qui n'ont pas vendu du tout. Même qu'ils résument l'année 2008 en disant que la plus grosse nouvelle chez eux pour l'année, c'est qu'ils n'ont pas fait de hits. Ils n'ont pas fait de succès, tout simplement.
C'est pas bon,
donc,
ça.
Ça va
les
mal.
Les actionnaires doivent être contents.
Ben, surtout en plus dans la période de crise économique où les différentes compagnies de création de jeux ou de développement mettent des gens à la porte. C'est quand même quelque chose qui est assez spécial de l'avouer comme ça. Et j'imagine que peut-être qu'un petit peu plus de vente du côté de EA pour ces jeux-là aurait peut-être amené à moins de mise à pied chez les gens. Mais qu'est-ce qui fait que ces jeux-là sont pas nécessairement des bons jeux? Moi, j'avoue que j'ai essayé Dead Space, je n'ai pas joué au complet. Mirror's Edge, je ne l'ai pas essayé, mais j'avais lu les critiques un peu.
J'ai eu des très bons commentaires sur Mirror's Edge. J'ai un collègue de travail qui recommande fortement aux gens de jouer au jeu et qui dit que la fin est extraordinaire, que c'est un de ses jeux préférés maintenant qui va rester dans son répertoire.
Est-ce qu'il t'avait dit à peu près c'était le nombre d'heures qu'on pouvait jouer pour faire?
Non, il ne me l'a pas dit. Par contre, cette personne-là, c'est une personne qui a tendance à faire beaucoup de choses. Donc, qui a tendance à passer vraiment à travers le jeu au complet. Puis quand il a fini, c'est le genre de personne qui va peut-être, après quelques temps, qui va rejouer au jeu, mais avec justement les walkthroughs pour aller vraiment chercher tout ce qui est possible.
D'accord.
Moi, je vais m'informer là-dessus.
Je pense que c'était un jeu qui n'était pas nécessairement très long. C'est peut-être ça qui a déçu peut-être plusieurs critiques, parce que le jeu avait été critiqué à peu près entre 7 et 7,9 sur 10 au total, ce qui est quand même pas mauvais. C'est une cote, normalement, qui est bien, mais bon. En tant que joueur qui se réfère à différents sites internet ou à différents critiques, peut-être que le fait que ce soit seulement 7.9,
ça encourage pas les gens
à l'acheter, ouais. Malgré le fait que moi, ce que j'ai vu au niveau du jeu, parce que comme je vous disais, je l'ai pas essayé, mais j'avais vu beaucoup de visuels, de vidéos, c'était quand même impressionnant, là, la vélocité, l'effet de la vitesse, toutes ces choses-là, c'était quand même bien fait. Mais bon, il paraît-il qu'il y avait des petits bugs aussi au niveau du design, puis des effets sonores parfois. Il disait que le fait que ce soit une nouvelle façon de jouer amenait beaucoup d'essais, erreurs, recommencer, des choses comme ça. Ce qui fait que parfois les joueurs se tannent beaucoup, mais bon, c'est l'histoire qui se répète un peu au niveau de ça, au niveau du jeu, de la nouveauté. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'innover, beaucoup de compagnies qui essaient d'innover avec des jeux. Et il y avait un de mes amis cette semaine qui me faisait penser, bien, qui m'a parlé d'un article qui a été publié sur IGN.com, qui est un site de jeux, peu importe les jeux, jeux vidéo surtout, et où on parlait en fin de compte, la descente de Sega avec la Dreamcast. Vous vous souvenez de la Dreamcast qui était la dernière console de Sega?
Oui.
Qui était très innovatrice dans un sens.
Elle était en avant de tout le monde. Hein?
Puis à un moment donné, boum, ça l'a descendu. Le PlayStation est sorti, il venait tout rafler. Et ce qu'on disait dans l'article, en fin de compte, en milieu d'article, mais c'était presque la conclusion, c'était que les gens ont préféré acheter des noms qui sont déjà connus des différentes consoles, des noms qui étaient déjà faits, plutôt que de faire confiance à des nouveautés, ce que, par exemple, Sega amenait sur la Dreamcast. Et c'est un peu ce qui se répète ici. On parlait justement de Mirror's Edge, on parle de Dead Space. Les gens aiment peut-être plus acheter un Call of Duty, qui est peut-être la répétition de ce qu'ils ont déjà vu dans les derniers numéros, mais le nom est fait, c'est un jeu qui est bien coté, que d'essayer. Je pense que c'est peut-être bon que les gens essaient aussi
C'est sûr, mais c'est que je trouve que les cartouches sont quand même assez chères, alors on peut moins prendre de risques, par exemple, avec des CD, avec des livres, avec d'autres éléments culturels.
Ben, je suis d'accord avec toi là-dessus.
$70, c'est
mieux d'être sûr. $70, parfois, quand on arrive avec un jeu qui dure à peu près 4, 5 heures, 6 heures, me semble que c'est payé cher pour...
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il suffit que tu aies moins de 15 ans, puis moins d'argent peut-être. Ouais, c'est ça.
Mais ça fait penser, justement, en fin de semaine, je regardais la TV un peu à Discovery, puis il parlait d'un quelqu'un qui faisait des innovations pour des voitures. Puis qu'est-ce que la personne disait, c'est les gens aiment pas le changement. Faut que tu fasses 3 pas pour que les gens avancent de 1. Donc, si ça va trop vite, la majorité des gens ne suivent pas. Ils aiment pas trop quand ça change trop vite. Il faut y aller graduellement. Puis c'est le problème avec ces jeux-là, des fois aussi.
Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est bien, pareil, d'essayer, en fin de compte, les essayer. Mais c'est certain qu'en ayant des cotes de 7 à 7.9 sur 10, c'est pas quelque chose qui va aider les gens à vouloir l'essayer, le jeu. Même si tu dis qu'il est très bon. Moi, je pense que le fait que tu m'en parles, je vais sûrement aller essayer ça. Au moins, le louer, puis peut-être l'acheter par après. Mais en fin de compte, en conclusion, ce qu'ils ont décidé, Ils ont décidé pour 2009, le focus, ça va être de meilleurs jeux, mais ils ont quand même coupé dans la production. Ils ont coupé d'un 20% au niveau de la production des nouveaux jeux qui allaient sortir.
Eh bien, bon.
Et si, en terminant, vous savez, on en parle depuis quelques temps, que Resident Evil 5 va sortir, eh bien, si vous ne le saviez pas, il y aura sûrement une console spéciale, édition spéciale, qui va sortir avec le jeu. J'espère qu'on va en avoir ici, dans la région de Québec. Et c'est une Xbox Elite de couleur rouge. Et je vous dis pas pourquoi la couleur rouge, c'est Resident Evil. Et ça sera disponible avec, bon, un disque dur de 120 gigs, la manette qui va être rouge aussi, un casque d'écoute noir, un fil HDMI, des fils composantes, un câble Ethernet, un code pour télécharger gratuitement Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Donc, tout ça dans le prix de la console. Et ça devrait être disponible. L'histoire ne dit pas, par contre, si on pourra bien apercevoir le Red Ring of Death à travers de notre console, de notre console rouge. Mais bon, on verra ça. Drôle de mélange comme couleur. Mais ça termine la chronique actualité. Et on va passer tout de suite à l'agenda, Guillaume.
Oui.
De mon côté, l'agenda ici. Eh bien, ce soir, les soirées Puissance Maximale à Laurent Martin, après, à 18h, tout de suite après l'émission. Ce sera, on vous invite à venir nous voir. Il y aura des jeux. Amenez vos jeux également. Tous les mardis, il y a des parties de Go au Café Babylone à partir de 19h également. Les seconds samedis du mois, jeux de plateau, jeux de vidéo au pavillon Lacerte de l'Université Laval, de 19h à 23h. Le 15 mars, c'est la Coupe Québec NHL 09 pour la Xbox 360. C'est au Schizo. Et chaque mardi, tournoi de hockey sur la Wii à la Nincassé. Et il y a également tous les mercredis, soirée jeux de plateau, c'est à Montréal, de ce côté-là, au Café La Récréation de 19h. Alors, merci d'avoir écouté tout le monde l'émission de Puissance Maximale. On remercie Robin Couturmat d'être passé. Merci à Mathieu Place pour ta chronique. Merci également à Guillaume Forand.
Merci à toi, Vincent.
Ça me fait plaisir. Et l'émission qui suit, c'est Homologue. Si vous voulez réécouter l'émission, puissancemaximale.com et également lepetitpeuple.fr. Alors, bonne semaine à tous.
Bonne semaine. It's the
end. Never kissed a lady before.
Nope.
Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time.
Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool.
And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.
No, we're not. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend.
And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end.
Whoa. You got a girlfriend?
Yeah. Yeah. No.
It's the end. Warriors who terrify. It's the end. Virgins. Till the day we one, two, three, four, die.